Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 4h30, temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, N'Djamena où les opérations de déminage touchent à leur fin.
95% de la ville est nettoyée, affirment les autorités. Deux semaines après l'explosion d'un dépôt de munitions dans la capitale tchadienne, l'une des conséquences, c'est que des milliers d'engins explosifs se sont retrouvés éparpillés un peu partout dans la ville. Délicates opérations pour les récupérer et les neutraliser. Reportage dans un instant avec une équipe de déminage. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo, à Kisangani, des indemnisations ont commencé à être versées pour les victimes, en tout cas pour celles qui ont été identifiées, les victimes de la guerre des six jours en l'an 2000, pour laquelle l'Ouganda a été condamné à payer 325 millions de dollars. Portrait du nouveau et jeune ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Ronald Lamola, le Sénégal qui réaffirme à Paris sa volonté de renégocier des contrats pour l'exploitation de son sous-sol. Et nous serons à Bangui. La Centrafrique impose désormais des tests Covid pour les pèlerins de retour de la Mecque. Des missiles solaires et même des bombes au phosphore. Voilà ce que les équipes de déminage ont récupéré ces derniers jours à N'Djamena, au Tchad, conséquence de l'explosion d'un dépôt de munitions le 18 juin dernier. La déflagration qui a fait une dizaine de morts d'après le dernier bilan officiel. Son souffle a également projeté des milliers d'engins explosifs aux quatre coins de la capitale tchadienne. Aujourd'hui, les autorités assurent que 95% de N'Djamena a été nettoyé au gré des signalements des habitants. Et notre correspondant, Carole Valade, a pu suivre l'une des équipes de déminage.
Ok, ici, j'approche auprès de Enobi.
Avançant à pas feutrés, simplement protégé par un casque, l'adjudant-chef Patayamou se saisit à main nue d'un obus chargé, gisant au milieu d'une concession.
Depuis le 18, je pense que moi, avec mes équipes, on n'a pas eu le temps à faire des repos en dehors de 2 heures de temps. Parce que c'est notre boulot. Un démineur, tu es engagé d'aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas laisser des munitions auprès de la population.
Le téléphone du lieutenant-colonel Hassan se met à sonner.
Une roquette qui est enfuie au sol vers Amsinene 2. Donc on doit se porter là-bas. C'est le devoir. C'est le devoir. Il faut y aller.
Alors c'est parti.
Merci.
On vous suit.
Il faut creuser pour extraire l'engin de la boue. Sous le regard inquiet du chef de quartier Mahamad Djibril.
Ce sont les enfants qui l'ont trouvé ce matin en jouant dans les flaques. On a tout de suite appelé le génie militaire.
Lieutenant-colonel Hassan.
Je crois bien qu'on est on tire vers la fin. Aujourd'hui, on n'a que 2 appels. Djamena est hors de danger. Nécessairement, il faut être toujours vigilant. Si jamais on voit un projectile quelque part, il ne faut jamais minimiser ce genre de choses. Il faut faire signe et nous, on va se porter aussitôt sur le lieu.
Les projectiles récupérés devraient être détruits dès la semaine prochaine sur un site sécurisé en dehors de la capitale. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Et notez que la semaine dernière, le Premier ministre tchadien a évalué le coût des réparations à plus de 11 millions d'euros et il a sollicité l'aide des partenaires internationaux du Tchad pour y faire face. De son côté, la commission d'enquête annoncée par le gouvernement n'a pas encore rendu ses conclusions, mais les experts mettent en avant les mauvaises conditions de stockage. Arrêté, jugé et condamné à la peine de mort, le tout dans la même journée, hier dans l'est de la République démocratique du Congo. 25 militaires ont écopé de la peine capitale, notamment pour fuite devant l'ennemi. Alors que des combats ont toujours lieu entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles du M23, soutenus eux par le Rwanda. Au mois de mai dernier, 8 autres militaires, dont 5 officiers, avaient eux aussi été condamnés à la même peine, la peine de mort pour laquelle le gouvernement congolais a dit cette année sa volonté de l'appliquer à nouveau. La RDC, ou le Frivao, a commencé ses premiers versements. Le Frivao, c'est l'organisme public en charge de verser des indemnisations de ce qu'on appelle la guerre de 6 jours en juin 2000, notamment autour de Kisangani, pour laquelle l'Ouganda a été condamné à payer 325 millions de dollars de dédommagement. Pour l'instant, Kampala en a payé environ la moitié et le Frivao a lancé donc des versements pour la province de la Tchopo, malgré des critiques sur son identification des victimes. À Kisangani, la correspondance de Joseph Kaongo.
Lancé le 8 juin, ce processus de réparation des victimes n'est pas apprécié par tous. La lenteur de traitement des dossiers est décriée par cette victime de la guerre de séjour qui n'a pas voulu révéler son identité.
Depuis qu'on attendait cet argent, on a sorti une seule liste et c'était le 10 juin qu'on a vu cette liste de 139 personnes qui devaient être payées. Mais à la date du 2 juillet, à la banque, seulement 139 personnes étaient en attente et les victimes deviennent impatientes.
Au-delà du processus, les montants même des indemnisations sont souvent jugés trop faibles. Les sommes forfaitaires jusque-là varient de $280 à $1040 et ne constituent que la première tranche avant que toutes les victimes ne soient identifiées dans d'autres provinces. Mais pour Gentil Sefou de l'organisation de la société civile Lucha, ce cheminement de Frivao ne respecte pas l'arrêt de la Cour internationale de justice.
L'arrêt de la CIG concerne l'espace Grand Oriental, la province de Litouri, province de Bazouélé et de Haute-Ouélé sont concernés. Frivao devait répertorier, enregistrer les victimes de partout là-bas, mais malheureusement, Frivao a fait la vis des procédures. Au lieu de continuer d'abord à enregistrer les victimes, Frivao a procédé aux remises des montants forfaitaires aux victimes seulement de Kisangani.
Pour l'heure, selon l'agence congolaise de presse et la société civile, 3163 victimes sur 14 000 identifiées à Kisangani ont été déclarées éligibles à l'indemnisation par le Frivao et c'est seulement plus ou moins 100 personnes qui ont déjà touché leur indemnisation. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
La cérémonie a duré plusieurs heures hier au Cap en Afrique du Sud. Le temps pour tous les 75 ministres et ministres délégués du nouveau gouvernement sud-africain de prêter serment hier, gouvernement de coalition avec au total une dizaine de partis. Il reste dominé ce gouvernement, comme l'Assemblée nationale, par l'ANC, le parti du président Cyril Ramaphosa. L'ANC qui conserve les principaux ministères, dont celui des Affaires étrangères, occupé désormais par Ronald Lamola, lui qui était ministre de la Justice ces 5 dernières années et qui prend donc du galon son portrait avec Romain Chanson.
Le visage de Ronald Lamola a fait le tour du monde quand il s'est rendu à la Cour internationale de justice pour porter les accusations de génocide à Gaza contre Israël. Il était ministre de la Justice et il accompagnait la ministre des Affaires étrangères qu'il remplace aujourd'hui. Ronald Lamola devrait suivre ses pas. Cet homme de 40 ans est un pur produit de l'ANC. Il était vice-président de la branche jeunesse du parti. Il siégeait donc au sous-comité aux affaires étrangères, un domaine qu'il connaît bien. Il devrait défendre la ligne du parti. Soutien à la cause palestinienne, au peuple sahraoui, amitié avec Cuba, Pékin et Moscou, tout en entretenant de bonnes relations avec les États-Unis ou l'Ukraine. Son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba, a d'ailleurs salué sa nomination sur Twitter. On sait que l'Ukraine cherche des soutiens sur le continent et que l'Afrique du Sud avait tendance à pencher du côté russe au début de la guerre, mais l'Afrique du Sud défend sa position de non-aligné et se plaît à parler à tout le monde, un dialogue qui sera nécessaire pour l'organisation du G20 en Afrique du Sud à la fin de l'année 2025. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
RFI, 4h38 à Dakar, 2h de plus ici à Paris. Paris, où le ministre sénégalais des Mines est venu le répéter. Dakar compte bien renégocier les contrats en vigueur actuellement pour l'exploitation des richesses de son sous-sol. Paris, où s'achève aujourd'hui le sommet Mining on Top Africa. C'est une question de souveraineté, affirme le ministre, qui souhaite aussi que les minerais sénégalais puissent être à terme transformés sur place. Alexis Bédu.
Un discours de rupture face notamment à des industriels français dans la course mondial au minerai, le Sénégal vendra au plus offrant, dit en substance Biram Soulaye Diop.
Je ne voudrais pas aussi me limiter à l'Europe. Il faut aller tirer les bénéfices partout dans le monde et ne pas avoir des œillères pour dire Europe. C'est vrai, je suis venu à Paris, mais si mon intérêt est en Arabie Saoudite, j'irai méchamment le chercher là-bas.
Les pays africains producteurs de minerais doivent accélérer ensemble pour transformer sur place, dit le ministre. C'est une question de souveraineté.
Tant qu'on ne prend pas la décision de transformer, on ne fait pas de transfert de compétences. Est-ce que vous savez que la France connaît mieux le cadastre minier du Sénégal que le Sénégal? Pourtant, ils ont les données encore. Et ils ne l'ont pas partagé avec moi. C'est quelle générosité ça? La transformation, ça suppose aussi savoir qu'est-ce qu'il y a dans son territoire minier.
Le rééquilibrage via la renégociation de certains accords miniers est réaffirmé. Ce n'est pas sans risque, mais c'est loin d'être impossible pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales.
À partir du moment où c'est l'État qui est souverain sur un certain nombre de ressources naturelles et c'est lui qui peut aussi causer des problèmes aux entreprises exploitantes, en règle générale, les entreprises, après avoir dit non, on ne va pas renégocier, et viennent à la table des négociations et on renégocie.
Et face à la crainte des industriels, le ministre des Mines du Sénégal insiste sur un point, la stabilité politique de son pays.
Explication signée Alexis Bédu. Le Sénégal, par ailleurs, qui a renforcé, au début de la semaine dernière, ses contrôles sanitaires pour les pèlerins de retour de la Mecque, après que certains ont contracté le Covid-19. Dakar, rapidement imité par le Togo, par exemple. Et depuis cette semaine, la Centrafrique fait de même. Cette année, 400 personnes environ sont concernées et elles doivent désormais se soumettre à un dépistage. Alors, descente de l'avion à Bangui, reportage de notre correspondant Rolf-Steve Domialeux.
Saléhou Ndiaye vient de descendre d'un avion qui le ramène de la Mecque. L'air fatigué après des heures de vol, le coordonnateur du comité de pèlerinage se présente au centre de dépistage.
C'est vraiment une décision responsable. Il y a une semaine, au Sénégal, on a découvert quelques cas de Covid sur les pèlerins qui sont rentrés, et au Cameroun aussi. Donc les autorités ont pris le devant.
Tous les dispositifs sont en place et le dépistage est obligatoire pour tous les passagers en provenance de la Mecque. Docteur Pierre Somsé est ministre de la Santé.
Le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, ont cru devoir prendre les dispositions préventives pour accueillir ces pèlerins en prenant des dispositions qui permettent de nous assurer qu'ils sont en bonne santé, bien suivis et que la santé publique est également protégée.
En plus de ces mesures, le comité de pèlerinage multiplie les sensibilisations dans les quartiers.
On a essayé déjà d'en parler aux pèlerins pour demander aux parents de ne pas aller à l'aéroport et d'attendre que leurs parents à la maison pour essayer d'arrêter la propagation s'il y a des cas positifs, bien sûr.
Dans les quartiers de Bangui, certaines personnes craignent un éventuel retour de cette pandémie qui a coûté la vie à 113 personnes sur un total de plus de 14 900 contaminations entre 2020 et 2022 selon le département de la santé. Rolf-Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Et à Bangui, en Centrafrique, il est bientôt 5h42. Vous retrouvez Arnaud Pontus pour la suite des RFI Matin.
Merci Xavier Besson et à tout à l'heure. À suivre dans les toutes prochaines minutes, reportage en Tunisie.